La fourmi voyageuse, conte anglais de 1796. Il y avait un jardin disposé un peu à la mode d'autrefois et entouré d'un mur de briques très élevé. Au milieu, un vivier environné de pelouses, de parterres et d'arbustes. Puis venait une large allée de gravier qui faisait le tour du jardin. L'espace compris entre l'allée et le mur était planté de fleurs, de légumes et d'arbres fruitiers. Au pied de l'un de ceux-ci se trouvait une fourmilière dont les habitantes avaient poussé très loin leur galerie souterraine. Un jour, deux citoyennes du lieu se rencontrèrent dans une galerie. « Ah, mon ami, dit la première, que je suis heureuse de vous voir. Où donc avez-vous été pendant votre si longue absence? Nous étions très inquiètes à votre sujet. Nous avons cru à un accident qui aurait pu vous arriver. Oh, je suis maintenant, répondit l'autre, presque une étrangère. Vous n'êtes pas sans savoir que je reviens d'un très long voyage. Un voyage? Mais où, je vous prie, et pourquoi? Non, par pure curiosité de ma part. J'étais depuis longtemps mécontente d'en savoir si peu sur notre monde. Alors je me suis enfin décidé à partir en découverte. Je peux me vanter d'avoir parcouru le monde jusqu'à ses extrêmes limites. Il n'y a pas grand-chose qui ait échappé à mes investigations. Mais c'est merveilleux! Quelle voyageuse vous faites et que de choses vous devez avoir vues! Mais oui, oh, j'en ai certainement vu plus que la plupart des fourmis, mais au prix de tant de fatigue et de périls, je sais si cela vaut vraiment la peine. Voudriez-vous me faire le plaisir de me raconter un peu une de vos aventures? Volontiers. Je me mis en route de bonne heure par une matinée ensoleillée. Je traversais nos établissements et la zone de plantation qui les entoure. Je rencontrai alors une plaine vaste et nue sur laquelle réapparaissait à perte de vue aucune trace de verdure. Le sol était dur et recouvert partout de grosses pierres qui me rendaient aussi désagréable que possible et pénible à parcourir. J'avançais avec donc difficilement lorsque j'entendis derrière moi un grondement qui venait de plus en plus fort. Je me retourne, j'aperçois avec épouvante une grande montagne qui roulait dans ma direction. Elle allait si vite qu'il m'était impossible de l'éviter. Alors je m'aplatis derrière une pierre, me croyant déjà morte. Mais aussitôt, la montagne passe sur moi et je reste sans connaissance, je ne sais pas combien de temps. En revenant à mon premier... chose que je fus de m'étirer les membres un par un, et à ma grande surprise, je n'avais aucune blessure. Mais le cataplisme avait presque enfoncé dans la terre la pierre qui m'avait abrité. Ah, vous l'avez échappé belle. Oh, je vous crois. Et à force de marcher dans le désert, j'atteignis enfin les bornes pour mettre le pied sur une vaste étendue de terrain vert. Certes, cette masse de verdure était surtout formée de feuilles longues, étroites et enfilées sur toute une montre, serrées les unes contre les autres d'une manière inextricable, que je ne pouvais chercher qu'au prix de plus grandes difficultés, je me serais perdu si j'avais eu soin de toujours me diriger du côté du soleil. J'étais à peu près au centre de ce pays vert lorsque la vue d'un gros monstre à quatre pattes me fit tressaillir. Il bondit en l'air comme s'il se fût envolé et dans son saut passa juste au-dessus de moi. Un peu plus loin, j'arrivais en courant et sans m'en apercevoir, sur une de ces bêtes rampantes, au corps allongé et arrondi, qui n'ont ni tête, ni queue, ni pattes, et que nous rencontrons quelquefois dans le sol, près de chez nous. Et dès qu'elle me sentit sur son dos, elle se retira bien vite dans son trou, si vite qu'elle allait m'entraîner avec elle, mais d'un bond, je m'échappais. J'atteignis enfin péniblement l'extrémité de cette région enchevêtrée et je me trouvais sur un territoire découvert comme celui que nous habitons. Il y avait là des arbres élevés que je ne pouvais en voir les sommets, si élevés. J'avais faim, alors je me mis à grimper au premier en quête de quelques fruits, mais je fus obligé de descendre après des recherches aussi fatigantes qu'inutiles. Je grimpais sur d'autres arbres sans plus de succès. Il y avait bien des fleurs et des feuilles en quantité, mais rien à manger. Oh, je serais morte de faim si je m'étais trouvée sur le sol des baies aigres et âpres dès que j'en fis un triste repas. Je courus alors un danger bien plus grand que tous les précédents. Un de ces êtres emplumés à deux pattes, que nous apercevons souvent à nos propres dépens, sauta d'une branche et de son bec énorme ramassa la baie sur laquelle j'étais. Par bonheur, au lieu de l'avaler tout de suite, et il s'envola vers un arbre. J'eus le temps de me dégager et je tremblais, tombais par terre de très haut sans me blesser. Ayant dépassé ainsi la plantation, je me vis de nouveau sur une autre terre ainsi que aussi verte et aussi inextricable que précédemment. Après l'avoir traversée, oh, difficilement, je me trouvai tout à coup sur le bord d'une plaine étendue et étincelante dont j'ignorais la nature. Je m'aventurai sur cette feuille tombée et j'en gagnai l'extrémité. Et là, je ne fus pas peu surprise de me rencontrer nez à nez avec une fourmi qui semblait sœur de dessous, la sortie de dessous la feuille. Je fis un pas pour l'embrasser comme une sœur. Mais au lieu de cela, je sentis une substance froide et inconsistante dans laquelle je me serais enfoncé si je ne m'étais retourné aussitôt et rattrapé à la feuille où je parvins à me placer. Je savais maintenant que la grande plaine en ras face de moi était faite de multitudes qui tombent parfois du ciel et nous causent tant d'ennuis lorsqu'ils inondent nos trous, comme je réfléchissais à ma manière de continuer mon voyage, une douce brise s'éleva, et avant que je m'en fusse aperçu, poussa la feuille loin de la terre, ferme sur ce fluide qui, bien que sans consistance, supportait cependant la feuille et moi par-dessus tout. Et grande fut ma surprise. Je courais de tous les côtés, cherchant un moyen de revenir en arrière. Mais non, pas, il n'y allait fort songer. Alors je me résignai donc à mon sort. Je pris même plaisir à ce mode facile de transport qui me faisait ainsi aller de l'avant. Que de nouvelles et extraordinaires créatures habitaient cette contrée liquide. Des êtres de dimensions prodigieuses, couverts d'écailles brillantes et diversement colorées, passaient devant moi avec une extrême rapidité, glissant en tous sens, et avec une tête volumineuse, des yeux fixes, une bouche d'une effroyable largeur, sans pattes. Ils semblaient se mouvoir grâce à des sortes d'ailes fixées en divers endroits de leur corps, et en particulier au bout de la queue, toujours en mouvement. Des êtres moins gros, de formes étonnantes et variées, allaient, venaient dans le fluide limpide où se reposaient à sa surface. Je remarquai avec terreur que nombre d'entre eux étaient sans cesse pris et avalés par des plus gros. J'étais à peu près au centre de la plaine, unis, lorsque la surface devint houleuse. Elle s'élevait tantôt et tantôt s'abaissait. Ma feuille, ainsi ballottée, menaçait de se renverser. Je tremblais à la pensée de ce qui m'attendait. J'étais jeté parmi les monstres que j'avais sous les yeux. Mais je fus porté, sain et sauf, jusqu'à l'autre bord. Je pris pied avec joie sur la terre sèche. J'eus alors à faire l'ascension d'un terrain vert, mais qui montait en pente douce vers une plantation de grands arbres semblable à ce que j'avais déjà traversé. Cette plantation succédait à une nouvelle plaine verte, puis un autre désert de pierre, et j'atteignis enfin les bornes opposées de notre monde, formées par cette même immense muraille qui s'élève jusqu'aux cieux et qui le limite aussi de notre côté. Et c'est là que je vis une nation de même race que nous, et dont la manière de vivre diffère très peu de la nôtre. Ces fourmis me conduisirent chez elles, m'accordèrent l'hospitalité et me permirent de les accompagner dans leurs excursions. Il y avait dans le voisinage un bel arbre fruitier auquel nous rendions de fréquentes visites. Et un jour que je me régalais au centre d'une prune délicieuse, je fus soudain enlevé très vite et emporté dans un endroit obscur où, au milieu d'un horrible fracas, je tombai sur de la chair humide. Je fus presque aussitôt expulsé dans un souffle impétueux de vent chargé d'humidité. Je me trouvais sur le sol, empêtré dans la bave. Je me dégageais, non sans effort, et regardais au-dessus de moi. Et j'aperçus un de ces énormes animaux à deux pieds qui, maintes fois, éparpillent la terre sur nous afin que nous effrayer. Mes nouvelles amies commençaient à me faire entendre qu'il était temps de partir, car, disaient-elles, vous le savez, nous n'aimons pas naturaliser les étrangers. Oh, ce fut un bonheur pour moi que cette insinuation à laquelle j'obéis. Je venais en effet de quitter la place. J'étais sur une éminence voisine lorsque j'entendis par derrière une énorme détonation épouvantable. Je me retourne toute la fourmilière sautait en l'air au milieu des flammes et de la fumée. Tout autour, et à de grandes distances, retombaient des corps à demi consumés, pêle-mêle avec les ruines de l'établissement. Puis des vapeurs s'élevèrent, si suffocantes que je m'évanouis. De malheureuses fugitives m'apprirent que l'on attribuait le désastre à un feu souterrain qui avait fait explosion. On supposait que le mauvais monstre à deux pieds et aux mâchoires duquel j'avais si heureusement échappé n'y était pas étranger, car on l'avait vu avant la catastrophe verser dans les trous qui conduisaient à la grande salle des grains noirs et brillants. Pour revenir de ces contrées lointaines, j'ai longé le mur d'enceinte qui, d'après mes remarques, devait me conduire ici. Et je fis la rencontre de plusieurs tribus errantes de fourmis. Et je me joignis souvent à leurs fourrageurs en quête de vivres. Un jour, notre bande, alléchée par une douce odeur, fit l'escalade de colonnes élevées qui supportaient un grand édifice circulaire pourvu d'une seule ouverture. Par cette porte entraient et sortaient incessamment des bêtes ailées que nous voyons souvent en train de sucer le fruit, les fleurs, le jus des fleurs. Leur tournure rappelle un peu nos formes, bien qu'elles soient beaucoup plus grosses que nous. Elles sont armées d'un aiguillon terrible. Avaient-elles bâti elles-mêmes leur vaste habitation, ou bien étaient-elles dues à la bienfaisance d'un être plus puissant? Je ne sais. Mais elles semblaient y déposer ce qu'elles recueillaient d'une manière si laborieuse, car elles arrivaient sans relâche, chargées d'une substance parfumée, entraient avec leur fardeau et sortaient débarrassées. J'avais une grande envie d'entrer avec elles, mais leur aspect formidable nous arrêtait, et aussi une nourriture, un murmure continu provenant de l'intérieur, dans lequel on devait deviner l'attente de la colère, l'accent. Et deux ou trois d'entre nous, les plus hardis, choisissant le moment où l'ouverture était à peu près libre, s'y aventurèrent, mais elles réapparurent bientôt en fuyant et poursuivies, foulées aux pieds, sous la porte. Elles y furent massacrées. Nous battîmes rapidement en retraite. Deux aventures qui m'arrivèrent ensuite ont bien failli m'empêcher de revoir ma patrie. Je m'étais installé un soir avec une compagne de route dans une coquille d'escargot vide. Mais il tomba pendant la nuit une telle averse que la coquille se remplit d'eau et que je m'éveillai à moitié suffoqué. Par bonheur, j'avais la tête tournée du côté de l'ouverture. Je pus grimper au sommet et de là gagner un endroit sec. Mais ma compagne, qui avait pénétré plus avant dans la coquille, ne revint plus. Et peu après, marchant près de la muraille, je découvris un trou assez curieux. Il présentait un orifice arrondi, se rétrécissait à mesure qu'il s'enfonçait. Je m'approche davantage pour mieux l'examiner. Mais le bord, qui était de sable fin, cède et je glisse au fond du trou. Et aussitôt, un être pourvu de cornes énormes et de griffes effroyables surgit hors du sable et veut me saisir. Mais je prends la fuite et me mets à remonter en courant. Il me lance alors une telle pluie de sable que j'en suis aveuglé et que je manque de retomber. Je parvins cependant à me remettre hors d'atteinte, mais je courais toujours. Je me suis arrêté qu'à une très longue distance. J'ai su par la suite que c'était là l'antre d'un fourmi-lion, et que celui-ci et cette terrible est ennemi pour nous. Il ne peut nous égaler en vitesse, et c'est grâce à son artificieux stratagème qu'il arrive à s'emparer de la proie. Ce fut ma dernière aventure. J'ai revu mon pays avec une très grande joie. Bon, je ne le quitterai plus. Quel profit ai-je recueilli de mes voyages? Ouf, je l'ignore. Mais j'en ai tiré une importante conclusion. Quelle conclusion? Dit l'ami. Vous connaissez l'opinion courante d'après laquelle tout a été fait pour nous seuls. Eh bien, j'ai vu des étendues considérables de pays où nous ne pourrions plus vivre jamais. Ces vastes contrées sont cependant peuplées d'êtres beaucoup plus grands et beaucoup plus forts que nous. Aussi ai-je la conviction que le Créateur a fait le monde aussi bien pour les autres que pour nous. Oui, c'est assez probable, mais vous feriez mieux de garder votre opinion pour vous. Pourquoi? Vous connaissez l'orgueil de notre race, ses prétentions à la sagesse et à l'antiquité de son origine, de sorte que nous autres fourmis, nous jugerions outragés si on essayait de nous diminuer à nos propres yeux. Mais la sagesse ne consiste pas à se tromper. Bien, faites comme vous l'entendez. Mais pour le plaisir que vous m'avez procuré votre récit, merci et adieu.